Nous voulons regarder pendant quelques semaines au ministère, au rôle, au titre que Christ a. Je ne sais pas, peut-être vous vous rappelez, il y a quelques mois, nous avions écouté un message qui reprenait par rapport à l'office prophétique de Christ. Ça m'a lancé dans la réflexion. D'autant plus que ça pouvait servir pour la conférence qu'on a eue au mois de février. Et donc je suis parti sur ces réflexions-là. Et on va lire le verset 15. Enfin, en fait, on va commencer au verset 9 de Deutéronome 18. C'est donc Moïse qui donne une seconde lecture de la loi. La loi étant pas simplement les 10 commandements, mais tout le système lévitique. Et il le donne juste avant le passage du peuple d'Israël de l'autre côté du Jourdain, quitter le désert pour entrer dans la conquête de Canaan, conquête que Moïse ne peut pas faire et qui va être remplacée par Josué. Mais Josué lui-même ne peut pas la compléter. Totalement, il va y avoir encore des poches de résistance. Pourquoi ? Tout simplement parce que celui dont nous allons parler pendant 3 semaines, c'est celui-là qui fait véritablement, qui donne véritablement le repos à Israël, au peuple de Dieu. Sinon, David n'aurait pas dit qu'il y a un autre jour pour le repos, comme le dit Hébreu. Donc on va commencer au verset 9 pour avoir un peu un arrière-plan. Lorsque tu seras entré, c'est Moïse qui parle au peuple, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc là, on a un arrière-plan et on voit combien ce passage est actuel, ou plutôt combien la modernité de l'homme n'est pas si moderne que ça. On a exactement les mêmes choses aujourd'hui. Mais maintenant, voilà ce que l'Éternel dit, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis. L'Éternel répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, » et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai aurait point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. On va simplement le prendre comme point de départ. Mais en fait, on verra au terme de, nos, de notre série là, que ça aura véritablement répondu à ce que ce passage nous dit. Et notamment que le peuple ne peut pas avoir un accès direct, un contact direct avec Dieu. Vous vous rappelez, quand le peuple était devant la montagne de Sinaï, juste avant l'établissement de tout le rituel lévitique, et avant le don du décalogue, des 10 commandements, comment le peuple était auprès de la montagne et il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs et tout ça, ils ont fui, ils ont dit que l'Éternel, que nous n'entendions plus cela, parce qu'ils étaient vraiment effrayés. La présence de Dieu dans sa colère est une chose effrayante, et c'est seulement l'aveuglement et notre endormissement dans le péché qui nous fait ne pas trembler à cette pensée. Et donc, il faut un médiateur, et c'est ce dont nous voulons parler maintenant. Le médiateur, celui qui vient entre Dieu et l'homme. Et bien entendu, c'est Jésus-Christ. Alors là, dans ce passage, il est parlé de l'office prophétique, c'est-à-dire le fait que Dieu va envoyer des prophètes. Ces prophètes, il y avait des faux prophètes, comme vous avez vu. Il va y avoir des faux prophètes, et tout le reste de l'Ancien Testament nous le montre. Et dans le Nouveau Testament, il y a des faux docteurs. Comment est-ce qu'on sait? C'est que ce qu'ils disent ne va pas se produire. Le vrai prophète, en fait, ce qu'il dit doit se produire, c'est-à-dire qu'il annonce Jésus-Christ. Et nous voulons regarder Jésus-Christ. Alors, on va faire une démarche. Les théologiens prennent les trois fonctions de l'œuvre de Jésus-Christ et ils les décortiquent un peu. Il est prophète, il est roi, il est prophète, il est sacrificateur et il est roi. Alors, bien entendu, c'est une démarche un petit peu artificielle parce qu'on parle d'une personne. C'est un tout. Et en fait, on ne peut pas avoir Christ le prophète sans avoir Christ le sacrificateur, ni Christ le roi. Et cela nous montre qu'en fait, Jésus-Christ est le médiateur. Et il n'y a pas d'autre médiateur, nous dit la parole de Dieu, que Jésus-Christ, parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. Mais il est bon quand même pour nous de regarder, de décortiquer un peu ce ministère de Jésus-Christ et de regarder la richesse qu'il y a, une distinction. En fait, cette distinction n'est pas si artificielle qu'on le veut, du moment qu'on garde bien le fait que Jésus-Christ, c'est une personne entière. Et il ne peut pas être un office sans les autres. Mais la distinction, en fait, vient plutôt de l'homme. L'homme a été créé à l'origine pour remplir un triple office. Il y avait un triple mandat, en quelque sorte. Il avait reçu la connaissance et l'intelligence, d'une part. Et là, on ne parle pas de simplement l'intellect. C'est-à-dire que l'homme connaissait Dieu, au départ. Il avait reçu la justice et la sainteté, en même temps. Et il avait aussi reçu la domination sur l'ordre créé. Et donc, vous voyez, on a en fait ces trois aspects qui ressortent là. Le fait d'avoir la connaissance, de pouvoir venir vers Dieu et de savoir qui il est et d'avoir communion avec lui. C'est ce qu'on voit dans le Jardin d'Éden. Mais il y avait aussi cette justice, cette sainteté. L'homme était créé droit. Et bien entendu, on sait qu'il avait reçu ce mandat de régner, ou plutôt de gérer sur l'ordre créé, en tant que, on pourra dire, vice-roi, remplaçant de Dieu, ou mandataire de Dieu. Et le péché, bien sûr, a brisé, a souillé et a tordu tout cela. Et en conséquence, l'homme ne connaît plus Dieu. Alors, une petite illustration qu'on a déjà utilisée, mais si on se promène à droite à gauche, alors c'est peut-être pas si évident en France, mais je me rappelle par exemple voyager aux États-Unis, ou même souvent voyager en Afrique. Alors en Afrique, c'est plutôt les pancartes, aux États-Unis, c'est les clochers. On a des bâtiments qui sont longs, d'autres qui sont hauts et tout ça, et chaque nom est différent, n'est-ce pas? Et il y a des guerres entre ces groupes. Alors, peu importe ce qu'on peut en dire, pour moi, ça me parle du fait que l'homme ne connaît plus Dieu, véritablement, parce qu'il a des tas d'idées au sujet de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est à travers telle chose, et de telle manière, et ainsi de suite. Et voilà. Et donc, cette connaissance a été brisée. Il y a maintenant une ignorance. Et puis, la justice et l'équité et la sainteté dans laquelle l'homme avait été créé, bon, on n'a pas besoin d'en parler bien longtemps, on se connaît soi-même, dans une certaine mesure. Et on sait qu'il y a beaucoup de ténèbres en nous-mêmes. Donc ça a été brisé, ça a été tordu. Et puis, est-ce que l'homme règne sur le monde créé? Non, en fait, il est plutôt comme un tyran et comme quelqu'un qui détruit l'ordre créé. Et donc, cela montre que, en raison du péché, l'être humain a besoin d'un médiateur pour revenir à la position où il était, ou une position devant Dieu, ce dont on a parlé dans les passages qui nous ont été lus tout à l'heure, vous voyez. Donc il y a besoin d'un médiateur, et ce médiateur doit faire remettre d'aplomb, doit en fait réparer ces trois zones, ces trois domaines qui ont été tordus par le péché, notamment. Ok, donc vous voyez, il y a un certain côté artificiel, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas totalement bizarre. Et donc, on pourra gagner quelque chose du fait de décortiquer, de disséquer un peu dans notre étude ces aspects de Jésus-Christ, du moment qu'on se rappelle qu'on parle du médiateur, de l'œuvre du médiateur, celui qui est venu pour accomplir la réconciliation de son Père avec son peuple. Et pour cela, il fallait qu'il soit les trois, qu'il œuvre dans les trois. On peut aller regarder quelques passages dans 1 Timothée 2, si vous voulez simplement écouter. Aucun problème. 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Donc voilà un médiateur. En fait, le médiateur n'est pas simplement une collection d'offices, une collection de titres, si on pourrait dire, mais il y a une œuvre, une personne et l'œuvre. Bon, on pourra avoir d'autres si vous voulez prendre des notes. Hébreux 8, 6, 12, 24 aussi sont des passages qui nous aident à voir cela. Et dans ce premier message, on va regarder Christ le prophète. Christ le prophète, comme vous avez vu, il était annoncé à Moïse que Dieu va susciter un prophète comme lui. Donc, l'office prophétique. On aura probablement un petit interlude la semaine prochaine, et puis on verra ensuite l'office de sacrificateur, l'office de roi. Christ remplit la fonction de prophète. Et de façon à rendre les choses un peu simples, on va répondre à deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Et ça vaut le coup de poser la question parce qu'aujourd'hui, on a d'une part un certain illettrisme biblique, mais aussi beaucoup de confusion. Et on a tendance à penser qu'un prophète, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Un prophète de mauvais augure, n'est-ce pas? On a cette expression dans notre langue. Voilà, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. C'est quelqu'un qui va vous dire si cette année vous allez vous marier ou pas. bien sûr, on va dire, mais non, ça, c'est pas ce que nous pensons. Mais quand même, on a tendance à être infecté par cette pensée-là. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle de l'avenir. Et si on n'est pas trop infecté, de même manière, on peut dire que souvent on est mis en difficulté pour dire qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Si le prophète n'est pas ceci, qu'est-ce qu'il est? Alors, il faut revenir au terme à l'origine. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs termes qui parlent, qui sont traduits prophètes. Le sens découle souvent du contexte, c'est-à-dire qu'on parle du même office, du même rôle, mais il a plusieurs facettes. C'est quelqu'un, par exemple, qui vient avec un message de Dieu. Regardons Exode 7. Exode chapitre 7 et au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton prophète, ton frère, sera ton prophète. » Voilà, ça c'est un des mots qui est utilisé. Alors bien entendu, Moïse n'était pas Dieu, mais il était le représentant de Dieu. Et Moïse avait apparemment la parole pas très aisée, c'est très encourageant. Donc, Dieu lui avait donné son frère Aaron, et Aaron, c'est celui qui allait parler. Moïse allait lui dire, et Aaron allait parler à Pharaon. Donc, voilà, le prophète, c'est celui qui parle, qui a un message de Dieu. Deutéronome 18, donc 18, hein, ce passage qu'on a vu un peu plus loin, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète, comme toi. » Voilà, le même mot. Hein, celui qui vient avec un message de Dieu à l'adresse du peuple. Il y a encore deux autres termes qui soulignent que le prophète reçoit la révélation de Dieu, en particulier et souvent sous forme de vision. Pas toujours, mais voilà, ça c'est un des sens d'un autre terme. Et c'est très intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, les termes différents s'utilise de façon interchangeable. Et en français, on a eu pas mal de traductions. Tout de suite, vous allez penser à des passages. Homme de Dieu, messager, messager de l'Éternel, gardien, c'est-à-dire celui qui garde sur la parole, voyant, celui qui voit, et sentinelle. Donc vous voyez un peu toutes ces choses. Et dans le Nouveau Testament, on trouve le mot prophète est formé de deux parties. Et en fait, ce n'est pas tant quelqu'un qui annonce avant, celui qui déclare l'avenir, mais plutôt quelqu'un qui déclare, c'est-à-dire quelqu'un qui amène une révélation. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, le terme prophète est souvent utilisé pour quelqu'un qui prédit l'avenir parce que dans l'Ancien Testament, celui qui révélait, celui qui déclarait, il déclarait qui, nous allons le voir, Christ, qui était dans l'avenir. Mais aujourd'hui, le prophète, c'est celui qui déclare Christ, qui est à la fois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Donc on a cette chose. Donc, le prophète est celui qui reçoit la révélation, celui qui est au service de Dieu en tant que messager et qui parle au nom de Dieu. Voilà. Maintenant, la deuxième question, j'ai dit on va répondre à deux questions. En quoi Christ est-il un prophète? En quoi Christ est-il prophète? Quelles en sont les preuves bibliques? Alors, on a déjà vu la promesse en Deutéronome 18. Dieu promet en place, ici c'est une promesse qui est à double niveau, à double étage. Quand Dieu dit à Moïse, voici l'Éternel te suscitera, enfin il parle au peuple, hein, du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, comme Moïse a été, n'est-ce pas? Au premier étage, c'est que Dieu va leur envoyer des prophètes, afin qu'ils ne soient pas comme ces nations que Dieu est en train de chasser devant eux. Ces nations, c'est des nations qui font n'importe quelle sorte d'abomination, qui font toutes sortes de choses afin d'atteindre Dieu. Alors, ils ont des devins, vous avez vu, ils ont des enchanteurs, ils ont des augures, des astrologues et ainsi de suite. Et le mot mage entre dans cette catégorie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Et l'Éternel déclare à Moïse, si jamais lui ne faisait pas quelque chose, le peuple d'Israël serait comme ces nations. Mais voilà, il va envoyer des prophètes, un ministère prophétique qui va leur déclarer, leur révéler la vérité. Et bien entendu, le cœur de cette prophétie est Jésus-Christ, celui qu'il va envoyer, le Messie, et un jour, il y aura celui qui est suscité par Dieu, qui sera la révélation de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, il y a ce passage-là. Mais le témoignage du Nouveau Testament est surabondant, directement ou par déduction. Depuis les paroles de Siméon, je ne sais pas si vous vous rappelez, allons voir dans Luc chapitre 1. Vous vous rappelez l'homme qui était dans le temple et il voit Joseph et Marie qui arrivent avec le bébé. Et chapitre 1, verset 76, voilà partie de ce qu'il annonce en fait. Il est prophète lui-même. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » C'est-à-dire que voilà ce que la parole de Dieu déclare, ce qui veut dire que Jésus-Christ va être la révélation de Dieu. Le peuple attendait un prophète spécial. Si on va dans Jean 7, par exemple, on ne va pas prendre le temps ce matin, mais on s'aperçoit que le peuple attendait un prophète. Et quand Jésus est venu, on pense qu'il est ce prophète. Alors, il y avait beaucoup de confusion, c'était un peu tordu, mais quand même, ils attendaient. Et Christ lui-même revendique ce titre et cet office, par exemple, quand il commente le passage qu'il a lu dans la synagogue à Nazareth. Il lit Ésaïe, où il est question d'un prophète, et en fait, Jésus revendique ce titre pour lui-même. Cette parole est accomplie aujourd'hui, dans vos oreilles, devant vous. Et puis, on pourrait penser encore à beaucoup d'autres passages. Mais comme on a vu, les parties de l'office médiatorial de Christ viennent pallier et répondre, réparer et se substituer aux dégâts qui sont causés par le péché chez l'homme. Et donc, ici, l'office de prophète, c'est-à-dire le fait que Christ révèle Dieu et la volonté de Dieu à l'homme pécheur pour son peuple, ça répond au fait que nous sommes dans l'ignorance du fait de notre péché. On pense qu'on connaît Dieu, mais on ne le connaît pas. Et donc, Christ vient pour répondre à cette carence. Le premier grand point, ou deuxième grand point, le fait est que l'office du prophète pour Christ était requis, c'était nécessaire. Dieu donne des prophètes parce que nous en avons besoin. Est-ce qu'on pourrait connaître Dieu sans ses prophètes? Absolument pas. En fait, c'est ce qu'on va voir dans toutes ces considérations. Ça répond toute la personne de Christ, à travers ses différentes facettes, répond à ce terrible jugement qui s'est abattu sur l'homme dans son péché. L'homme créé droit, innocent, est tombé dans la déchéance en raison de sa rébellion contre Dieu. Et donc, il est dans les ténèbres de l'ignorance. Dans les ténèbres. Et lui qui a été créé avec une intelligence et une connaissance qui lui permettent non pas simplement de connaître au sujet de Dieu, mais d'être en relation avec Dieu. Lui, il a perdu tout cela par sa désobéissance. Et, par exemple, on voit que tout de suite après la chute, quand Dieu vient dans le jardin l'homme et sa femme se cachent. On voit cela aussi, par exemple, dans la conversion de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui était l'étoile montante du judaïsme, bien en avant par rapport à ses congénères, dans les connaissances théologiques, dans tout ce qu'il fallait. Et voilà plus tard, Paul qui va citer l'Ancien Testament, il connaît les petits coins obscurs dont on n'a jamais entendu parler, et lui les connaît sans même qu'il y ait de verset ou de référence. Eh bien, quand il est confronté par Jésus sur la route de Damas, quelle est la première chose qu'il dit ? Qui es-tu, Seigneur ? L'ignorance. Vous voyez ? Il est dans l'ignorance. Et le verdict de Dieu sur l'homme pécheur, c'est ça, en fait, qu'il est dans l'ignorance. Et on peut citer des tas de passages pour ça. Le cœur de l'homme n'est pas enténébré, n'est pas plongé dans les ténèbres en raison de quelque infortune qui s'est abattue sur lui, le fait qu'il est dans des circonstances qui sont loin d'être idéales. Non, il est responsable de la chose. C'est plus profond. Et c'est quelque chose qui est vraiment attaché à son cœur. Par exemple, naturellement, l'être humain a peur des ténèbres. C'est pour ça qu'on a l'homme a tout de suite cherché à faire du feu, à la fois pour se réchauffer, mais aussi pour voir dans le noir. On a peur des ténèbres. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, alors pendant des étés, j'étais à la campagne. Je n'étais plus tellement gamin d'ailleurs, mais j'étais dans un coin de la ferme, complètement loin, parce que je ne faisais pas partie de la famille, et j'avais peur la nuit, alors que je n'aurais pas dû avoir peur. Mais il y a une chose intéressante à remarquer, c'est que en termes spirituels, l'homme est amoureux des ténèbres. Il ne veut pas savoir. Par exemple, commence à lui parler de Jésus-Christ tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu. Quelle est la réaction ? C'est « non, mais ». Je vais plutôt vous dire mes pensées au sujet de Dieu plutôt que d'écouter ce que vous avez à me dire. On aime ses propres ténèbres. Les ténèbres sont en lui et il est amoureux de ces ténèbres. Donc on a quelque chose qui est vraiment profond ici. Et la question se pose, comment un homme aussi perdu dans l'aveuglement de ses ténèbres, chéri, peut-il être atteint ? Comment est-ce qu'on peut toucher ? Il est si aveugle qu'il est aveugle à son état. Et donc il lui faut un prophète. Il lui faut une révélation. Et en raison de l'inimitié, plutôt de l'intimité, de la chute dans le péché, dans le fait que ça touche vraiment jusqu'au plus profond de l'être, il n'y a plus de voie en nous, naturellement, pour aller à Dieu. Il faut que Dieu vienne. C'est une question de cœur, c'est pas simplement une question d'intelligence. On ne connaît pas Dieu, non pas parce que on n'a pas tous les éléments, mais parce qu'on ne veut pas les avoir. C'est quelque chose de très profond. Parce que si c'était simplement une question d'intellect, il suffirait de donner de l'instruction. Mais on sait que ce n'est pas ainsi. Et tous les gens intelligents seraient sauvés. Mais c'est presque le contraire qu'on trouve. Et Paul lui-même dit aux Corinthiens, « Remarquez parmi vous, il n'y a pas beaucoup d'intelligents et pas beaucoup de sages. Pas beaucoup. » Alors, ça ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient tous complètement ignares, mais ça ne vient pas ainsi. C'est le cœur de l'homme qui est tordu et il fait de lui-même le centre de référence. Et du fait que son être a été tordu, il ne peut pas trouver Jésus-Christ, il ne peut pas trouver Dieu. C'est impossible. Alors, je ne sais pas si vous avez été en Grande-Bretagne ou peut-être en Afrique du Sud, on joue ça, mais en Grande-Bretagne, on ne joue pas aux boules comme on joue ici. Ici, la pétanque, hein, c'est pour ça que j'y arrive jamais, moi. Mais il faut vraiment tirer juste sur la boule pour faire un carreau. Hein, c'est ça. Alors, en Angleterre, vous savez, les Anglais, ils sont tous un peu tordus, hein, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si je vais finir la journée. Mais ils ont des boules, et alors, On habitait à côté d'un club de boules quand on habitait en Angleterre. Et alors, c'est très intéressant parce que leurs grosses boules, déjà, hein, c'est un peu difficile. Mais alors, on les voit, ils ont le cochonnet, cette petite boule blanche qu'il faut atteindre. Hein, il faut être le plus près du cochonnet, comme tout, pour tous les jeux de boules. Mais alors, ils commencent à tirer complètement de côté. Hein, le cochonnet est devant et il tire à droite ou à gauche, enfin peu importe. Et alors, si vous faites. Selon votre désir, selon votre pensée, vous tirez droit sur le cochonnet. Jamais, jamais, jamais vous pouvez l'atteindre. Pourquoi? Parce que dans la boule, il y a un poids qui est par côté. Vous avez ça chez vous, hein? Ah ouais, vous voyez, vous êtes aussi tordu que. Hein? Et alors voilà, la densité de la boule n'est pas la même. Et donc on va tirer complètement de côté. Alors c'est là que vient la qualification, parce que il faut qu'on estime comment est-ce que le poids tordu dans la boule, en quelque sorte, va permettre à la boule de toucher le cochonnet finalement. Bon, peut-être pour les gens qui n'arrivent pas à viser les boules comme moi, c'est peut-être la bonne chose. L'être humain est pareil. Maintenant, son centre de référence n'est pas au centre, mais il est par côté. Et donc il ne peut jamais atteindre Dieu. Jamais. Il faut pour cela recréer une nouvelle nature. Et il suffit de regarder les livres de philosophie, d'écouter les gens intellectuels et tout ça, pour voir. Quelquefois, on écoute à la radio, comme ça, histoire de passer le temps, et vous avez ces gens qui se lancent dans des péroraisons au sujet de ci, de ça et tout ça. Quand on analyse vraiment ce qui est dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais ça a l'air très intelligent. Voilà, ça c'est l'être humain aujourd'hui. L'homme a absolument besoin d'un prophète. Donc le rôle de prophète pour Christ, c'est requis. Et dans sa miséricorde, Dieu a envoyé ses prophètes dans nos ténèbres et ultimement, il envoie son prophète. Celui qui ne vient pas en se contentant de dire « Ainsi parle l'Éternel, oracle de l'Éternel », mais il dit « Mais moi, je vous dis ». Parce que vous voyez, les prophètes sont venus, ils ont dit « Oracle de l'Éternel, parole de l'Éternel, ainsi dit l'Éternel ». Mais quand on arrive au temps des pharisiens, ils ont commencé à interpréter ça de n'importe quelle manière. Si bien que vous avez entendu qu'il a été dit, mais ce n'est pas important si vous faites différemment. Jésus vient. Et il dit, moi je vous dis, moi je vous dis. Et tout de suite, il enlève ces espèces de couvertures que les pharisiens ont mis, que nous nous mettons. Hein. Il vient, mais moi je vous dis, l'homme est insensé en lui-même. Alors, vous allez peut-être réagir à ça. Non, vous n'osez pas, parce qu'on est quand même correct. Hein. Mais vous allez dans Ésaïe 44, par exemple. Et vous allez voir comment l'homme est insensé. Ah, ça, c'est un passage qui est un peu abstrus. Non, Ésaïe 44, c'est là où monsieur, il va dans la forêt et il abat un arbre, il ramène l'arbre chez lui, vous vous rappelez maintenant, hein, il en prend la moitié et il va faire cuire sa nourriture, et puis l'autre moitié, il va faire une idole, un dieu. Mais qui dit quoi? Hein? Alors voilà, monsieur, il a pensé que cette partie-là, c'est vraiment la bonne partie, il va faire son dieu. Mais il n'a pas parlé à madame, et madame, elle est venue, elle a fait le ragoût avec. Hé, t'as fait cuire mon Dieu! Alors, ça nous fait rire, mais ça nous montre que l'être humain est insensé. Insensé. Nous sommes insensés par nature, n'est-ce pas? Et de quoi a-t-il besoin? D'un prophète. Il a besoin de la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Nous avons besoin de celui qui parle cette parole qui donne la vie aux morts. Et quand Jésus vient, il donne la vie aux morts, il donne l'intelligence à l'ignorant. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y avait la révélation de Dieu, mais c'était à travers les prophètes, pluriel, c'était de diverses manières. Il y avait des images, il y avait des visions, il y avait des rêves, il y avait toutes sortes de choses. Si on va dans, par exemple, Ézéchiel, il y a presque des paraboles, presque des pièces de théâtre. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous dit Hébreu au début. Hein. De diverses manières, de plusieurs manières. Ça veut dire qu'aucune de ces manières, plurielles, n'était parfaite. Il fallait toutes ces choses-là pour avoir une idée. Mais maintenant, il nous a parlé à travers le Fils. Ce qui veut dire que cette révélation est parfaite. Et elle est parfaite, et c'est tant mieux, parce que nous en avons besoin. Le ministère, l'office de prophète de Jésus-Christ est requis. Il est nécessaire. Nous en avons besoin. Et donc, on peut déjà adorer le Seigneur, parce qu'on voit comme quoi, dans sa miséricorde, il a donné le prophète qu'il fallait. L'office du prophète révélé. Il y a deux éléments dans l'office de prophète. Il y en a un passif et puis l'autre qui est actif. C'est-à-dire que le prophète reçoit la révélation et puis il déclare le message reçu. Il n'a rien à recevoir, et il n'a rien à donner, à communiquer qu'il n'a pas reçu. Ça, c'était le problème des faux prophètes. Mais les gens n'étaient pas prophètes simplement parce qu'ils recevaient des visions. Par exemple, Pharaon a reçu des visions. Abimélec, le roi de Gérar, il reçoit une vision. Nebuchadnezzar a eu des rêves. Oui. Il n'était pas prophète. Il faut la vocation divine et il faut être instruit de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui nomme et qui installe ses prophètes. Et il y a plusieurs périodes dans le ministère prophétique. Mais on va laisser ça de côté. Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vous vous rappelez dans le passage de Deutéronome 18, il va susciter un prophète, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et c'est là qu'on vient devant Jésus-Christ. Et on est interpellé parce que les mots que Jésus prononce sont les mots que Dieu lui a donné de dire. Donc il est vrai, étant Dieu lui-même. Il est vrai. Ce sont les mots qu'il lui a donné de dire. Et c'est le témoignage de la montagne de la Transfiguration. Celui-ci est le Fils de mon amour. Écoutez-le. Écoutez-le. Les vrais croyants dans l'Ancien Testament, il y en avait. Ce n'était pas tout Israël, mais c'était le vrai Israël, ce que Paul appelle l'élection. Ils ont toujours su, par la foi, et cru que la pleine lumière de la connaissance de Dieu viendrait dans le Messie. Continuellement, il y a cette attente que quelqu'un vient et il va donner la vraie révélation. Et dans le Nouveau Testament, cela faisait partie du tissu de la pensée de ceux qui étaient en Palestine. Par exemple, Jean chapitre 4. Et là, c'est encore plus frappant parce que ça n'est pas quelqu'un d'israélite, mais c'est une samaritaine. Vous vous rappelez quand la femme parle avec le Seigneur, hein, et elle part à droite et à gauche. Bon, on a étudié ça il y a quelque temps. Mais à un moment, elle dit, mais nous savons que quand le Christ vient, il nous dira toutes choses. Alors, c'est assez frappant parce qu'elle n'est pas juive. Ça veut dire que sa réflexion, sa connaissance est vraiment parcellaire. Elle est vraiment imparfaite. Mais elle sait que celui qui doit venir, le Messie, celui qui va être envoyé, c'est lui qui va tout dire. Il va tout dire. Il nous dira toutes choses. Et c'est comme ça que Jésus peut se révéler à elle. Et on voit que continuellement, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le peuple acclame Jésus comme un prophète. Et c'était le gros problème avec les pharisiens, parce qu'eux ne pouvaient pas le faire. Donc vous voyez, continuellement, le peuple le voit comme le prophète. Et puis, par exemple, on voit Jésus qui marche en Palestine, il arrive près de la ville de Naïn. Et vous savez ce qui se passe dans la ville de Naïn, juste alors qu'il entre, lui, porteur de vie, il y a une procession qui sort de Naïn qui porte un mort, un jeune homme, qui est le dernier soutien de sa mère, parce qu'elle était veuve. Et qu'est-ce que Jésus fait? Alors, vous allez me dire, mais Jésus le ressuscite. Oui, d'accord, mais comment est-ce que Jésus le fait? Il lui parle. Il lui parle. Pourquoi? Parce qu'il est prophète. Il lui parle. Et quand il est à Nazareth, par exemple, il va dans la synagogue et on lui demande de lire le texte, ou quand le texte est lu, on lui demande de parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Pourquoi? Parce que les maîtres s'assoient à cette époque-là. On ne se levait pas en chaire. On s'asseyait et tout le monde était là à écouter. Ça aurait été pas mal en fait, hein? N'est-ce pas? Seuls les maîtres le font. Tous les prophètes de l'Ancien Testament regardaient vers lui. Et donc ils annonçaient ce qui allait venir. Et aujourd'hui, l'office prophétique, qui touche en fait tous les croyants, c'est déclarer Christ. Déclarer ce que Dieu a fait en Christ. Et aussi le fait que Christ va venir. Et donc même, par exemple, un temps de communion, la scène, c'est un temps de... c'est un, comme une partie de l'office prophétique qui est donné à l'Église. Et cet office s'exerce partout où l'Esprit de Dieu demeure. Et on voit par exemple que Joël, qui est mentionné par Pierre dans son message de la Pentecôte, dit « Mais l'Esprit reposera sur vos fils et vos filles », ce qui veut dire que tous ceux qui seront d'Israël, le vrai Israël, ceux-là pourront parler au nom de Christ, pourront révéler Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Donc, l'office de prophète était requis, nécessaire, il était révélé, et c'est une révélation. Troisièmement, l'office du prophète reconnu, reconnu. L'office dans l'Ancien Testament, l'office prophétique, était authentifié dans la mesure où il révélait celui qui devait venir. C'est pour ça que si ce que le prophète dit se passe, il est prophète. Et seulement celui qui annonçait Christ allait ultimement être authentifié comme vrai prophète. Vous voyez, les faux prophètes mentaient. En fait, ils disaient « paix, paix ». On a pas mal de faux prophètes aujourd'hui, hein, même au niveau politique et au niveau sociétal. Hein. Paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Parce qu'il faut que quelque chose soit fait au sujet du problème du péché. Et c'est seulement en Christ que c'est fait. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, les vrais prophètes, venaient parler au nom de Dieu. Ils étaient ses messagers. Mais Christ ne vient pas seulement comme messager. Il est la source même de la révélation de Dieu. En fait, il est à la fois la source et l'accomplissement. Et il y a encore un élément crucial pour ce qu'il concerne, un élément qui passe souvent inaperçu. Si on revient au passage, par exemple, où Jésus sort de Jérusalem après la résurrection. Vous connaissez ce passage. On est sur la route qui va de Jérusalem à Emmaüs. Et il y a ces deux disciples découragés, dépités. Et voilà que Jésus se joint à eux et commence à marcher. Et vous connaissez l'histoire. Hein? Alors, quand ces gens-là montrent qu'ils n'ont rien compris, ce qui est la cause de leur abattement, et vous voyez, ils ont besoin d'un prophète, pourquoi est-ce que Jésus ne leur dit pas « Hé, les gars, c'est moi, hein? C'est moi. » Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas comme ça? Parce que, en fait... La dynamique de l'Évangile n'est pas en fait centrée dans une sorte de leader. On ne suit pas une figure de proue, on ne suit pas un maître. Mais c'est dans l'Écriture, c'est-à-dire que toute l'Écriture est la révélation de Dieu. Jésus-Christ est le centre, il est la somme, il est la substance de l'Écriture. Mais on ne peut pas le connaître en dehors de l'Écriture. C'est en étudiant, en lisant l'Écriture, en méditant qu'on connaît Jésus-Christ. Et quand Jésus, avec ces deux hommes-là, il les emmène dans Moïse et tous les prophètes, n'est-ce pas? Il ne se contente pas de leur donner un panorama biblique, mais il montre qu'il est crucial que le disciple comprenne, au-delà de tout doute, en pleine certitude, que tout le livre de Dieu parle de lui. Et que toute la révélation de Dieu s'accomplit en lui. Vous voyez, on peut suivre, et il y en a beaucoup aujourd'hui dans les milieux évangéliques, qui vont suivre Jésus, je dirais, d'une manière magique ou d'une manière mystique. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme cette espèce de talisman, de gris-gris, de celui qui a fait ce qu'il fallait faire. Et d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas vraiment une connexion directe, mais quand même, un jour, j'espère que je vais bénéficier de la bénédiction qui coule de lui. Ça n'est pas le salut biblique. Ça n'est pas l'évangile biblique. Non, en fait, Jésus-Christ sauve parce qu'il accomplit toute la volonté de Dieu qui est révélée dans toute l'Écriture. Et c'est dans cette Écriture qu'on voit toute la richesse de Christ. Christ enseigne, Christ transforme, et la prédication, l'annonce par ses disciples, doit porter témoignage à cette vérité. Souvent, quand on parle de l'Évangile, on donne des faits, on donne des informations. Mais il faut aller plus loin que cela, vous voyez. Il y a une relation qui entre, et c'est cette parole de vie qui entre et qui communique la vie. Et donc, il y a cette relation avec la parole, et cette parole parle de la parole vivante. En fait, la puissance du Saint-Esprit ne se révèle pas, ne s'accomplit pas simplement à travers Jésus-Christ, mais à travers son corps, à travers l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église a pour rôle d'aller annoncer ce mandat évangélique, d'aller annoncer ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. La personne est l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est cette annonce-là que l'Esprit va utiliser pour toucher en puissance les cœurs. C'est cet office prophétique en Jésus-Christ, mais aussi dans son corps, qui accomplit l'œuvre de Dieu. Chaque croyant, dans son témoignage, chaque prédicateur, dans son ministère, est appelé à participer à l'office continuel de Christ. Et on voit cela, par exemple, dans le début du livre des Actes, où Luc dit « Maintenant, Théophile, qui que ce soit, je vais écrire un livre, tu vas pouvoir le lire, pour te montrer ce que Jésus a continué de faire. » Mais il n'est plus sur terre, vous voyez. Il a fait certaines choses, des miracles, tout ça, il a accompli le salut. Et maintenant, Jésus-Christ continue de le faire à travers son Église. Et voilà, on a 28 chapitres des Actes, et vous savez qu'il y a cette organisation qui s'appelle Acte 29. Bon, on va laisser nos pensées là-dessus de côté, mais la chose importante, c'est que l'Église n'a pas fini. L'Église n'a pas fini. Jésus-Christ continue aujourd'hui. C'est pour ça que ce jour s'est levé. C'est pour ça que ces heures nous sont données, afin que la parole de Dieu qui est portée par son Église aille toucher des cœurs. Et peut-être qu'on est là, nous, tout petit qu'on est, tout habitué, peut-être on dit « Oh mais je sais toutes ces choses-là ». Rappelons-nous, nous sommes dans les ténèbres par nous-mêmes. Et à moins que Dieu n'ait donné la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Et quand Dieu donne sa lumière, vous savez quelle est la première chose que l'homme qui a reçu la lumière de Dieu voit? C'est intéressant. Il voit qu'il y a des ténèbres en lui. C'est pour ça que celui qui dit « Non, mais moi je sais », il montre qu'il ne sait pas, en fait. Et c'est intéressant, tout à l'heure on parlait de cet homme-là qu'on a écouté mercredi. C'est un des meilleurs expositeurs de la parole de Dieu. Et je me rappelle, en discutant avec lui, ce qui était frappant, parce qu'il y a des tas de gens qui le mettent sur un piédestal. Lui-même essaye de faire tous ses efforts pour en descendre. Mais la chose qui frappe de lui quand on parle avec lui, c'est qu'en fait, il a véritablement conscience qu'il ne sait pas. Il sait très peu de choses. Alors que nous, par exemple, on aurait tendance à dire, mais voyez, ça, cette doctrine est claire, là. Alors lui qui est à l'aise avec les langues bibliques, lui qui passe son temps à réfléchir, qui connaît la théologie et les théologiens sans dessus-dessous, dit, bon, il semble que ça, mais si, oui, si on regarde tel contexte, ça pourrait être ça, et voilà, et ainsi de suite. Mais il s'aperçoit qu'en fait, il connaît très très peu. Et aujourd'hui, on entend la parole de Dieu, encore aujourd'hui, dans toute la faiblesse qu'on a, n'est-ce pas? Et on peut se dire, oh mais ces choses-là, je les sais. Rien que le fait de dire ça, on montre qu'en fait, on est encore dans les ténèbres. Ou tout au moins qu'on est aux prises avec des ténèbres. Mais la parole de Dieu, nous réalisons que nous avons besoin et toujours besoin, et peut-être que ce matin, aujourd'hui, nous entendons la parole de Dieu, et c'est Dieu qui est en train de se révéler à nous. Alors, plutôt que de dire « je sais », « oh oui, oui, ça, je connais bien », et tout ça, dit, Seigneur, parle, Seigneur, parle, et donne-moi la capacité, donne-moi la puissance de ton esprit pour écouter, pour entendre ta voix. Parce qu'en moi, il y a tout qui lutte contre la connaissance de toi. Que ton esprit agisse en moi dans toute sa puissance aujourd'hui. Et c'est ainsi que l'office prophétique de Christ continue, aujourd'hui encore. Il œuvre comme un prophète à travers son peuple. Alors, cette dimension exige certaines choses de celui qui suit Jésus-Christ. Première chose, le courage. Parce que on va s'amener avec un message qui n'est pas populaire, un message qui n'est pas aimé par le cœur humain. Il nous faut le courage de continuer à insister sur la vérité quand on a tendance à prendre des solutions de mi-parcours. Combien de fois c'est le cas? Ah oui, oui, je connais bien, oui, je comprends mon péché. Ah, alléluia, voilà quelqu'un qui est convaincu par son péché. Quelle est la suite? Ah, je vais faire des efforts. Il faut du courage pour continuer à dire non, vos efforts ne serviront à rien. Il faut venir à Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut compassion. La compassion. Et cette compassion, c'est le cœur même de Dieu. Dieu a envoyé son Fils. Il ne l'a pas envoyé d'une manière froide. Et quand Jésus est là à plaider, et c'est une étude assez intéressante de voir ces confrontations avec les pharisiens, par exemple, avec les religieux, il n'y a aucune compromission, mais il y a de la compassion. Et on pense à Paul, on pense à Moïse qui est prêt à être rejeté afin que Dieu épargne son peuple. Paul qui est prêt à être séparé de Dieu, séparé de Christ, si ça peut servir aux Juifs, incrédules, ce qui est impossible, bien entendu. Mais vous voyez son cœur, là. Et aujourd'hui, le malheur, souvent, j'entends des gens qui viennent avec une doctrine qui, franchement, elle est très juste, très droite, très biblique. Mais ils ont l'œil sec. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il vaut mieux suivre Jésus, qui était la vérité, qui voit Jérusalem qui tue les prophètes, qui rejette le Messie, qui est rempli de toutes mauvaises choses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et quand Dieu vient en puissance avec son esprit, qu'est-ce que Jésus a dit? Reste à Jérusalem. Mais commencez à annoncer cela à Jérusalem. Ce sont ces pécheurs-là qui ont entendu l'Évangile les premiers. Pourquoi? Parce que Dieu a la compassion. Et celui qui parle au nom de Dieu doit être rempli de compassion. Et nous avons besoin que l'Esprit nous fortifie pour cela. Et ensuite, la confiance. La confiance. Parce que ce que Dieu veut se passera. Ce qu'il a annoncé se produira. Et donc, nous savons que quand nous allons auprès des gens, quand nous annonçons la parole de Dieu, que ce soit dans les actes, par notre vie ou dans la parole, nous savons que cette parole va accomplir ce que Dieu a voulu. Cette révélation va révéler Dieu. Donc on peut avoir confiance. Il n'y a pas besoin de se demander si on fait vraiment les choses comme il faut. Bien sûr, on veut les faire du mieux possible. Mais ce que Dieu a décidé se produira, ce sera par la révélation de Dieu. Et donc, Christ, qui est le prophète, le grand prophète, maintenant envoie son peuple pour annoncer, et annoncer qui ? Annoncer Christ. Et annoncer quoi ? Son œuvre. Lui qui est envoyé de Dieu, Dieu et homme, qui a en fait accompli, qui a mis fin à la condamnation de Dieu contre le péché de son peuple. Il a pris l'acte, il a pris l'accusation, et il l'a brûlé sur la croix, étant cloué pour nous. Que le Seigneur nous enseigne, qu'il se révèle à nous, et qu'il nous donne d'avoir ces trois caractéristiques, le courage, courage de faire face à nos ténèbres, courage de faire face à cette lumière de Dieu qui est une lumière qui est douloureuse pour l'homme pécheur, à quelque niveau que ce soit, qu'il nous donne compassion et confiance afin de nous avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.